Les podcasts du Collège de France, philosophie.
On a une véritable science, ou en tout cas, de faire en sorte qu'elle devienne capable de résoudre les problèmes qu'elle se pose depuis plus de 25 siècles et qu'elle n'est jamais parvenue à résoudre. Alors à ce propos-là, j'avais traduit un passage de l'avènement de la philosophie scientifique de Reichenbach, dans lequel on voit apparaître tout à fait clairement cette idée qu'il est temps de rompre les liens qui ont semblé pendant si longtemps indissolubles entre la philosophie et la spéculation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un moyen, il doit y avoir une façon non spéculative et même, pour tout dire, scientifique de pratiquer la philosophie, qui est devenue possible en grande partie grâce à la logique moderne. C'est, dit Reichenbach, une croyance largement répandue que philosophie et spéculation sont inséparables. On est d'avis que le philosophe n'a pas à sa disposition de méthode qui conduise à la vérité objective, que par conséquent, la vérité de fait d'observation, de même que la vérité de cheminement de pensée purement logique, ne tombe pas dans son domaine et qu'il est obligé pour cette raison d'utiliser un langage invérifiable, bref, que la philosophie n'a rien à voir avec la science. Donc la philosophie, ça n'a pas de relation directe avec le domaine du factuel. Il semble qu'elle ne puisse être contrôlée et testée par aucun élément proprement factuel et qu'elle ne puisse pas non plus exploiter efficacement les ressources de la logique. Reichenbach estime qu'il est maintenant possible d'en terminer avec cette idée. Le livre que voici, dit-il, a été écrit dans l'intention de justifier une conception opposée. Il représente le point de vue selon lequel la spéculation philosophique renvoie à une phase transitoire qui n'apparaît que quand les questions philosophiques sont posées à une époque qui ne dispose pas encore des moyens logiques pour y répondre. Il affirme qu'il y a, et il y a toujours eu, une attitude scientifique en philosophie. Vous voyez qu'il ne va pas jusqu'à dire que l'attitude scientifique en philosophie est nouvelle. Elle a déjà existé sous différentes formes. Donc, il affirme qu'il y a, il y a toujours eu une attitude scientifique en philosophie et veut montrer comment de cette attitude est née une philosophie scientifique qui a trouvé dans la science moderne l'instrument permettant de résoudre des problèmes qui, dans les époques passées, étaient devenus la proie de la conjecture aveugle. Le livre veut apporter la preuve que la philosophie a échappé à la spéculation et est devenue une science. Reichenbach, comme je vous l'avais dit, a publié donc en 1947 un ouvrage intitulé « Éléments de logique, Elements, exactement, Elements of Symbolic Logic ». Vous avez là la référence à la traduction allemande. Et dans la préface qu'il a rédigée pour cette traduction allemande, David Kaplan évoque de façon très parlante les espérances philosophiques considérables et même presque démesurées que la logique contemporaine avait fait naître à l'époque dans l'esprit de l'auteur, c'est-à-dire dans l'esprit de Reichenbach et également dans celui d'un bon nombre d'autres philosophes. Alors, je reproduis un extrait de cette préface de David Kaplan. Donc, à l'époque à laquelle ce livre a été écrit, dit-il, donc il s'agit des Elements of Symbolic Logic, à l'époque à laquelle ce livre a été écrit, les possibilités de la méthode logique semblaient illimitées. Ça n'a rien d'une exagération. Beaucoup de gens, effectivement, se représentaient les possibilités de la nouvelle logique et de la méthode logique, des possibilités que représentait l'application de la méthode logique à la philosophie, il se les représentait comme véritablement illimitées. L'optimisme et l'enthousiasme que cette impression produisait et la curiosité de l'auteur, qui ne s'arrêtait devant rien, donnent au texte son caractère spécifique. Une illustration exemplaire de cela est la citation suivante, tirée de la préface. David Kaplan reproduit un extrait de la préface de Reichenbach. Je voudrais, dit-il, Reichenbach, je voudrais ajouter la remarque que les circonstances de ma vie personnelle m'ont été d'une aide importante dans la conception de ce livre. L'émigration des intellectuels, qui a été la conséquence des évolutions politiques funestes en Allemagne, comme je vous l'ai dit, il a été contraint de quitter l'Allemagne en 1933. Donc l'émigration des intellectuels, qui a été la conséquence des évolutions politiques funestes en Allemagne, a apporté une contribution importante à l'échange entre des normes culturelles différentes. Je ne peux, pour ma part en tout cas, qu'être reconnaissant pour une destinée qui m'a conduit dans différents pays. Comme je vous l'ai indiqué, donc, il a d'abord été à Istanbul, puis ensuite il a émigré aux États-Unis. Donc je ne peux qu'être reconnaissant pour une destinée qui m'a conduit dans différents pays, non comme voyageur, mais comme enseignant et coopérant à l'éducation de la jeunesse. La nécessité d'enseigner dans différentes langues m'a mené à l'essai d'adapter la logique formelle à une étude de la langue naturelle. Aussi ai-je commencé une recherche qui s'est révélée également utile pour la compréhension de la logique et du langage. Et de fait, dans les éléments de logique symbolique, Reichenbach fait un effort spécial pour exploiter les possibilités que représente la nouvelle logique pour l'analyse des langues naturelles. Il consacre des efforts spéciaux à ce type d'utilisation de la logique, l'analyse du langage ordinaire. Comme vous avez pu le constater d'après ces extraits, Reichenbach fait partie des philosophes qui ont nourri à une certaine époque des attentes tout à fait considérables à l'égard de ce qu'on peut aujourd'hui demander à la logique, y compris pour le traitement de questions qui sont de type tout à fait pratique. Mais, comme vous le savez, à quelques exceptions près, la philosophie française du XXe siècle n'a accordé à peu près aucune attention et aucun intérêt à la révolution logique et aux transformations qu'elle a été en mesure de produire dans la philosophie. Ce n'est pas, me semble-t-il, que l'on ait été capable de faire preuve d'une lucidité philosophique plus grande que d'autres et de se rendre compte que les espérances conçues par des philosophes comme Russell, Reichenbach ou les membres du Cercle de Vienne à l'égard de la logique étaient excessives et déraisonnables. Elles l'étaient effectivement. En réalité, on n'a même pas eu la plupart du temps le genre de curiosité élémentaire qui aurait pu susciter l'envie de connaître réellement ce qui avait fait naître les espérances en question, aussi excessives qu'elles aient pu être. Et on en est resté en gros à l'idée qu'au lieu de conduire, comme le pensaient ses défenseurs, à un renouveau de la philosophie, la logique ne pouvait signifier au contraire que sa disparition voulue et programmée. Wiemann, cependant, fait partie avec Granger du petit nombre des exceptions que j'ai évoquées. Il connaissait parfaitement et avait compris mieux que personne la révolution logique frégéenne, son importance intrinsèque, les conséquences qu'elle a produites dans la philosophie elle-même et les avantages considérables que peut présenter l'utilisation de l'outil logique, sous sa forme la plus moderne, dans le traitement de certains problèmes philosophiques. Mais, par ailleurs, il n'a jamais eu une sympathie quelconque pour l'idée que, grâce à la nouvelle logique, la philosophie, qui en était restée jusque-là à un stade pré-scientifique, allait pouvoir enfin accéder au statut de science authentique. C'est une idée qui, comme vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte, est complètement étrangère à Wiemann. Le premier point sur lequel il se déclare en désaccord avec ce qu'il appelle, sans essayer d'être plus précis, la philosophie analytique contemporaine, et qui fait l'objet du premier chapitre de « What are philosophical systems ?», ce premier point réside dans le fait que la perception, selon lui, précède le langage et possède déjà par elle-même une organisation spécifique qui ne doit rien à l'intervention du langage. C'est une chose qui soupçonne les philosophes analytiques dans leur ensemble, ou à peu près dans leur ensemble, d'avoir ignoré. Wiemann ne s'oppose bien entendu pas seulement sur ce point, comme il le pense à un bon nombre de philosophes analytiques, mais également aux défenseurs de ce qu'on appelle le relativisme conceptuel et linguistique, qui soutiennent que c'est le langage qui confère à la perception le type d'organisation qu'elle manifeste, et que par conséquent, pour dire les choses de façon un peu sommaire, à des langues différentes peuvent correspondre des univers perceptifs différents. En toute rigueur, cependant, Wiemann ne prétend pas être en mesure de réfuter le culturalisme, autrement dit, la doctrine qu'il définit comme étant celle, je cite, « d'après laquelle la perception est structurée par le langage et la pensée et n'a pas d'existence autonome en dehors de langues données et particulières ». C'est de cette façon-là qu'il présente les choses, donc page 34 de « What are philosophical systems ». Donc, il récuse cette conception selon laquelle, en vertu de laquelle la perception est supposée être, dit-il, structurée par le langage et la pensée, et donc est supposée n'avoir pas d'existence autonome en dehors de langues données et particulières. Ce qu'il faut dire, d'après lui, est seulement qu'on ne peut pas démontrer que le culturalisme est vrai. On ne peut sans doute pas démontrer qu'il est faux, mais ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on ne peut pas non plus démontrer qu'il est vrai et que, par conséquent, rien ne contraint à l'accepter. On ne peut pas non plus, du reste, démontrer la vérité de l'universalisme linguistique. Mais on peut parfaitement, sur cette question, se contenter d'une affirmation plus modeste, à savoir celle que voici. Le fait que la pensée que Saussure a comparée à, et suit donc la citation d'une formule de Saussure, le fait que la pensée que Saussure a comparée à une nébuleuse dans laquelle rien n'est délimité nécessairement, le fait que la pensée reste amorphe et indistincte antérieurement au langage, n'empêche pas du tout la possibilité de l'organisation perceptuelle. Autrement dit, on peut tout à fait accepter l'idée saussurienne que, avant le langage, la pensée reste comparable à ce qu'il appelle une nébuleuse dans laquelle rien n'est délimité nécessairement. Ça n'empêche, on peut parfaitement accepter cette idée, ça n'implique aucunement que ça n'entraîne aucunement l'impossibilité d'une organisation perceptuelle spécifique. Cette organisation, dit-il, est même indispensable si les langages doivent être parlés et entendus. Donc, pour qu'il puisse y avoir des langages susceptibles d'être parlés et entendus, il faut qu'il y ait préalablement une organisation spécifique du monde sensible qui est due à la perception elle-même. Il y a évidemment un aspect de l'influence que le langage est susceptible d'exercer sur la perception que Villemain ne nie en aucun cas. Vous voyez, par exemple, le passage suivant, on a souvent observé que l'identification perceptuelle, c'est-à-dire l'identification des objets donnés à la perception, on a souvent observé que cette identification perceptuelle est facilitée et rendue plus précise quand le sujet percevant sait comment nommer l'objet de l'identification, ou au moins comment l'associer à un son, même à un son dépourvu de sens, émis par lui-même. L'importance de signes intentionnels de cette sorte, faits par l'homme pour la maîtrise de l'organisation perceptuelle, ne peut pas être surestimée, comme le montre clairement le cas fameux d'Hélène Keller. Mais utiliser des signes, que ce soit des signes institutionnels ou des signes conventionnels, nous conduit déjà, dans le monde du langage, au stade actuel, les apparences contiennent des synthèses, et même des synthèses subjectives, elles ne contiennent pas la possibilité de leur communication. Donc, antérieurement à la possibilité qu'elles ont d'être communiquées, il y a des synthèses subjectives qui sont réalisées au niveau de la perception elle-même, c'est-à-dire antérieurement à l'utilisation d'un langage quelconque. Ce qui signifie que pour accéder à la communication de groupe, il faut dépasser le stade de l'organisation perceptuelle. Il y a au départ donc une organisation perceptuelle qui, encore une fois, est spécifique. Et pour la dépasser, pour accéder à la communication, il faut dépasser ce mode d'organisation. Et il faut également, par ailleurs, le dépasser pour accéder à l'ontologie, puisque l'organisation perceptuelle, telle que la comprend Villemain, ne nous fait pas sortir du domaine de l'apparence. Ces principes s'appliquent à des données, de façon à produire des apparences d'une certaine sorte, et s'applique ensuite à nouveau à des apparences de façon à produire des apparences d'un autre type, jusqu'à ce qu'aucune innovation ne puisse plus être obtenue par cette voie, c'est-à-dire jusqu'à ce que les possibilités de l'organisation perceptuelle, les possibilités que contient l'organisation perceptuelle, aient été complètement épuisées. Par conséquent, comme le souligne Villemain, nous devons considérer l'organisation perceptuelle telle qu'elle a été décrite comme une synthèse subjective ou comme une phénoménologie. Effectivement, le critère ultime de la signalisation phénoménologique n'est pas la vérité, mais la valeur de survie. Donc, comme vous le voyez, stricto sensu, il n'est question à ce stade que de l'apparence et de la façon dont elle peut être organisée par la perception elle-même. Il n'est pas encore question ni de la communication par le langage, ni d'ontologie. Au stade de la seule organisation perceptuelle, il n'y a bien entendu encore aucune place pour une distinction entre l'apparence et la réalité, puisque, comme je viens de le rappeler, nous restons entièrement au stade de l'apparence. Donc il n'y a pas encore de place pour une distinction entre l'apparence et la réalité, au sens auquel une telle distinction est susceptible de donner lieu à une bifurcation entre des options philosophiques incompatibles, entre lesquelles la raison va se trouver obligée de choisir. Voyez ce que dit sur ce point Villemain. D'après le principe de Helmholtz, les signaux qui constituent l'organisation perceptuelle sont spontanément interprétés comme des choses objectives. Helmholtz, effectivement, insiste sur le fait que nous avons une tendance naturelle à interpréter les signes sensibles comme constituant une représentation objective de choses extérieure, c'est-à-dire comme étant capable de nous représenter les choses du monde extérieur telles qu'elles sont, et même à les interpréter d'une certaine façon eux-mêmes comme étant des choses. Un principe analogue est valide pour le langage et pour le monde sensible. Les propositions élémentaires admettent des distinctions locales entre apparence et réalité, mais les apparences sont dispersées comme autant de flaques d'eau qui ne se réunissent jamais en une seule et unique rivière. Les jugements de méthode renvoient parfois à leur contrepartie dogmatique comme à des propositions vides qui ont besoin d'animation subjective. Ou bien l'énergie performative que les attitudes propositionnelles à la première personne du présent utilisent contraste avec la croyance morte exprimée par la proposition descriptive dogmatique correspondante. Mais les jugements de la série subjective ne sont opposés aux jugements de la série dogmatique ni comme l'apparence à la réalité, ni comme la réalité à l'apparence. Pour ce qui est des fictions authentiques, elles ne sont pas présentées comme des illusions qui nous tromperaient. Pour qu'une opposition systématique, ce qui précède demanderait à être commenté assez longuement, mais j'aurai l'occasion de vous en parler abondamment l'année prochaine. Alors, c'est surtout la conclusion qui nous intéresse, pour qu'une opposition systématique entre apparence et réalité se développe, les hommes en tant que groupe doivent en venir à croire à un ordre qui est dissimulé à leur perception et qui est considéré comme supportant des caractéristiques permanentes de la réalité qu'ils perdraient de vue sans cela. Et à ce moment-là peut effectivement apparaître une distinction plus ou moins systématique entre l'apparence et la réalité. Comment une tribu affamée pourrait-elle accepter la rude discipline de la rareté pendant de longs hivers si, derrière la mort apparente de la nature, ils n'imaginaient pas une aventure, une descente chez Hadès et un certain exil dans ce lieu qui promet, éventuellement à la condition que certains rites soient effectués, le retour à la vie. Fin de citation. Pour que l'opposition systématique entre l'apparence et la réalité, qui constitue l'objet par excellence de la philosophie, puisse apparaître, il faut que deux conditions supplémentaires soient réunies, en plus de l'organisation perceptuelle. La première condition qui va presque de soi est que les données de l'organisation perceptuelle puissent faire l'objet d'une communication intersubjective. Pour cela, il est nécessaire et suffisant que le groupe dispose de la forme linguistique qui permet de communiquer un message complet, à savoir la proposition assertée. Vous voyez ce que dit Villemin sur ce point. Une fois que nous avons atteint le message complet, la proposition assertée, nous disposons de tous les éléments nécessaires pour répondre à la question de la manière dont l'organisation perceptuelle peut être communiquée. Une simplification rapide a déjà déblayé notre chemin puisque tous les messages qui ne visent pas à la communication de la connaissance ont été écartés et seuls les messages qui ont une valeur de vérité, à savoir les énoncés assertifs, sont retenus. Donc ce sont les seuls énoncés qui vont dorénavant nous intéresser. Cette simplification, ajoute Villemin, est justifiée à la fois par l'importance intrinsèque de ces propositions et par le rôle qu'elles sont destinées à jouer dans les systèmes philosophiques. Elles vont effectivement jouer un rôle tout à fait fondamental dans les systèmes philosophiques et elles vont même constituer le principe de la classification des systèmes en question. Mais ce n'est pas la seule étape qui doit être franchie, il faut en franchir encore une autre, à savoir celle de la révolution dans l'usage des signes que représente l'apparition de la philosophie en liaison avec celle de la méthode axiomatique. Alors, sur cette deuxième étape à franchir, Villemin dit ceci, la philosophie libre, par opposition à l'idéologie organisée par l'Église ou par l'État, donc ce qu'il appelle la philosophie libre est précisément la philosophie qui s'oppose à ce type de philosophie, en quelque sorte officielle et imposée, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici, l'idéologie organisée par l'Église ou par l'État, la philosophie libre doit être née d'une révolution dans l'usage des signes à l'aide desquels, pour toute civilisation, le langage représente le monde sensible. Donc il y a eu, dans n'importe quelle civilisation, le langage doit au minimum remplir la fonction qui consiste à représenter le monde sensible, mais avec ce qu'on est convenu d'appeler le miracle grec, il s'est produit une chose qui n'a existé, selon l'idée que l'on se fait généralement de la situation qui n'a existé qu'une seule fois, à savoir une révolution, le genre de révolution dans l'usage des signes que Villemin décrit et dont je vous ai parlé assez longuement au début de ce cours. Quelle était et quelle est toujours la force qui protège l'ordre des signes anciens ? Donc évidemment, l'ordre des signes anciens ne va pas disparaître immédiatement et complètement, d'où la question, quelle est la force qui le protège, qui explique sa résistance? Quel est le point faible dans le réseau des propositions élémentaires? Où pouvons-nous espérer des innovations pour soumettre cette force conservatrice? Donc il y a une force conservatrice qui est à l'œuvre, même après la révolution qui est intervenue dans l'usage des signes. La nouveauté essentielle intervient quand la nécessité de diviser et de choisir là où l'ordre des signes anciens ne le faisait pas est ressenti. Donc il y a là un élément nouveau, tout à fait déterminant, qui apparaît. L'ordre des signes anciens était en quelque sorte synthétique et même syncrétique. Il n'éprouvait pas le besoin de diviser et de choisir, mais l'obligation de diviser et de choisir est au contraire ressentie fortement par l'ordre des signes nouveaux. Wittmann dit, la pluralité des philosophies, leur rivalité, leur polémique rappelèrent dès l'origine à la raison que poser, c'est se diviser et choisir. Et surtout, poser philosophiquement, c'est par définition se diviser et choisir. Comment la faculté même des principes pouvait-elle produire un tel conflit? Car c'est le sentiment de cette diversité irréconciliable qui distingue la philosophie du mythe. C'est le genre de choses, donc, d'après Wittmann, le monde du mythe s'accorde très bien, il s'accommode très bien sous les de tensions et de contradictions entre différentes sortes d'énoncés, mais c'est le genre de choses qui, avec l'émergence de la philosophie proprement dite, devient et est ressentie comme insupportable. Car donc c'est le sentiment de cette diversité irréconciliable qui distingue la philosophie du mythe. Celui-ci va rapier sans débout, sans s'inquiéter du disparate. Celle-là, la philosophie, donc, ne pose pas un principe qu'au vu de ses conséquences. Si elle n'y prenait pas garde, une autre la rappellerait aussitôt à la cohérence. Donc les systèmes philosophiques, évidemment, passent beaucoup de temps à se rappeler les uns aux autres l'exigence de cohérence. Quand un philosophe adopte comme axiome des principes d'une certaine sorte, s'il n'est pas capable lui-même d'en tirer les conséquences qui s'imposent et de les accepter, un autre philosophe qui défend un système opposé se chargera, selon toute probabilité, de le faire. Le choix à faire est, comme on l'a vu, entre des assertions fondamentales qui, jusque-là, pouvaient cohabiter sans heurts et sans problème. Chaque classe de système philosophique, dans l'idée que Wittmann se fait de la situation, n'est d'une certaine façon rien d'autre que la tentative qui est faite pour ériger en principe d'organisation suprême une des formes fondamentales de la prédication. C'est-à-dire chaque classe de système philosophique choisit et érige en principe d'organisation suprême une des formes fondamentales de la prédication. La philosophie est obligée de le faire, encore une fois, parce qu'il est impossible d'accorder des prérogatives égales à chacune des formes fondamentales de la prédication. Il faut faire un choix, et le propre de la philosophie est justement de faire ce genre de choix et de le faire de façon consciente et systématique. Pour classer, par exemple, les systèmes de la nécessité et de la contingence, ce que Wittmann fait de façon extrêmement détaillée dans Nécessité ou contingence, pour classer ces systèmes de la nécessité et de la contingence, il faut, remarque-t-il, remonter de la modalité à l'assertion, puisque, comme son nom l'indique, la modalité modifie la nature du lien propositionnel. Si on s'en tient aux propositions assertoriques, comme l'exige la théorie de la connaissance, une modalité peut être considérée comme modifiant une assertion, une modification donc, qui est imposée à une assertion. Par conséquent, dit Wittmann, il faudra d'abord faire la revue des types d'assertions fondamentales, en entendant par là les assertions qui communiquent un aspect irréductible de l'expérience et dont la distribution remonte donc à travers les formes prédicatives à l'articulation de la perception. Donc il faudra commencer par une classification des assertions fondamentales. Les assertions fondamentales voisinent pacifiquement dans la langue naturelle et dans les rhapsodies du sens commun, puisque à ce stade, l'incohérence et les incompatibilités diverses sont facilement supportées et ne sont même la plupart du temps pas ressenties. Donc les assertions fondamentales voisinent pacifiquement dans la langue naturelle et dans les rhapsodies du sens commun. L'ordre veut donc qu'on examine d'abord comment on passe d'une assertion à un principe, et qu'on prolonge ainsi la classification des assertions fondamentales en une classification des philosophies. Donc on classera les philosophies, les différentes philosophies, en déterminant, en considérant le choix de certaines, d'une ou plusieurs assertions fondamentales qu'effectue chacun des systèmes, ou chacun, plus exactement chacune des classes de systèmes. C'est alors seulement qu'on pourra classer rationnellement les modalités, qu'on verra commander les différentes conceptions que les types de systèmes philosophiques se font des lois naturelles. Le dominateur en fait foi, les philosophies naissent en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions, il s'agit des notions modales, donc en prenant conscience des incompatibilités auxquelles ces notions conduisent quand on les met en rapport et qu'on développe systématiquement leurs conséquences. Il y a donc un usage philosophique des assertions et des modalités fondamentales qui permet de classer les philosophies en remontant aux principes desquels découlent leur unité, leur limitation et leur affrontement. Et c'est ce qui est fait de façon systématique dans Nécessité ou contingence à partir d'une analyse de l'argument de Diodore. Donc, qu'il s'agisse du dominateur ou d'une antinomie comme l'antinomie de Russell, concernant l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes, dans les deux cas, on a affaire à un argument dont on constate qu'il y a contradiction entre les prémices explicites et implicites qu'il suppose. Donc on peut vérifier que les prémices, qu'elles soient explicites ou implicites, qui sont présupposées par cet argument, ne sont incompatibles entre elles. Et il résulte de cela que, je cite à nouveau Villemin, le philosophe se voit contraint de nier l'une d'entre elles, il restera libre de fixer son choix. Donc là, la liberté du philosophe s'exprime de façon essentielle, il a la possibilité de rejeter l'une ou l'autre des prémices qui se sont révélées incompatibles. On peut remarquer que l'analyse des prémices d'une démonstration d'incompatibilité, si elle est suffisamment minutieuse, nous fournit d'avance la liste des solutions possibles. Puisque, une fois qu'on a explicité toutes les prémices de l'argument, les possibilités de choix apparaissent forcément de façon tout à fait claire. On a la possibilité de rejeter, ou en tout cas de reconsidérer l'une ou l'autre des différentes prémices que l'argument présuppose. Donc, on a la possibilité de savoir, a priori, quelles sont les possibilités de choix qui se proposent. Il faut préciser cependant que dans le cas du dominateur, par exemple, on ne pourrait pas se contenter de classer les systèmes philosophiques concernés en fonction de la prémisse qu'il rejette. C'est un point sur lequel Villemin insiste beaucoup et que j'avais déjà signalé. Ça ne fournirait pas un principe de classification suffisante. Et la raison de cela, d'après Villemin, est que les prémisses forment un tout qui n'est pas suffisamment homogène. Ce qui a pour conséquence, ceci, ce qui est expliqué dans le passage que vous avez sous les yeux, Cléante et Chrysippe, dit Villemin, mettent en cause dans le dominateur des prémisses très différentes, sans cesser pour autant d'appartenir à la même école philosophique. Donc vous voyez que le choix de telle ou telle prémisse comme étant la prémisse qu'il convient de rejeter ne détermine pas à lui seul l'appartenance à une classe déterminée de système philosophique. Il faut faire intervenir d'autres considérations. Cléante et Chrysippe mettent en cause dans le dominateur des prémisses très différentes, sans cesser pour autant d'appartenir à la même école philosophique. En revanche, bien que la négation du tiers exclu puisse passer pour parente de la négation de la bivalence, tout oppose l'atomisme d'Épicure et l'hylémorphisme d'Aristote. Donc, si vous voulez, on peut avoir l'impression que la négation de la bivalence et la négation du tiers exclu sont des choses très proches l'une de l'autre, mais il n'empêche que ce genre de choix ne détermine pas une similitude réelle entre une proximité réelle entre l'atomisme d'Épicure et l'hylémorphisme d'Aristote. Il faut donc changer de méthode et remonter aux raisons véritablement a priori des choix. Il ne suffit pas donc de constater que tel philosophe a fait tel ou tel choix, c'est-à-dire a choisi de rejeter tel ou tel des prémices de l'argument. Il faut, dit Villemin, remonter aux raisons véritablement a priori des choix. Seules ces raisons rendront compte des affinités et des disparités philosophiques que cache l'analyse simplement logique des solutions. Cette nouvelle méthode sera synthétique. Alors, j'en viens maintenant à la 11e des questions que j'avais prévu de traiter cette année. que j'ai intitulé « Méthode axiomatique et philosophie ». Et là, je voudrais examiner un problème sur lequel que vous êtes certainement déjà posé sous diverses formes, c'est-à-dire quel est exactement le degré de proximité qu'il y a entre la méthode axiomatique et philosophie. Est-ce que Wiemann n'a pas tendance à exagérer quelque peu la similitude qu'il y a entre la philosophie et l'axiomatique, étant donné qu'à ses yeux, l'émergence de la philosophie et celle de la méthode axiomatique sont deux processus qui sont rigoureusement solidaires l'un de l'autre. Est-ce qu'il en résulte, enfin, si vous voulez, ça n'entraîne pas forcément comme conséquence que la philosophie soit du même coup contrainte de faire un usage extrêmement important et tout à fait déterminant de la méthode axiomatique. Donc il faut se demander, il faut se poser réellement la question de savoir jusqu'où va réellement et concrètement l'utilisation de la méthode axiomatique dans la philosophie elle-même. Pour appliquer la méthode synthétique au dominateur, il faut, nous dit Wiemann, remonter en deçà de la constatation qu'un système philosophique donné choisit de rejeter telle ou telle des prémices de l'argument et s'interroger sur le principe qui motive ce choix, et qui peut très bien ne pas être le même quand deux systèmes philosophiques différents concordent dans leur rejet de la même prémisse. C'est le point sur lequel je viens d'insister. Voyez encore ce que dit Wiemann dans ce passage. Pour appliquer la méthode synthétique au dominateur, il faudra assigner dans un système philosophique le principe en vertu duquel le doute doit se porter sur l'un des axiomes de l'argument. Vous voyez, il y a un principe, on est supposé pouvoir trouver un principe qui a entraîné comme conséquence le fait que le doute devait se porter sur l'un des axiomes de l'argument plutôt que d'autres. Et il faut donc montrer l'étroite convenance de chaque système avec l'usage spécifique qu'il fait d'une modalité fondamentale pour définir ce qu'il entend par loi naturelle. Alors ça, c'est le genre de choses sur lesquelles j'espère être en mesure de vous en dire nettement plus l'année prochaine. Alors pour le moment, donc la question qui nous intéresse, c'est la question des relations qui existe entre la méthode synthétique et l'histoire. La réponse de Wiemann peut se résumer de la manière suivante. C'est à la méthode synthétique, qu'il appartient de dériver la diversité des principes et d'établir les titres de légitimité que peut exhiber chacun d'entre eux. Cela, l'histoire ne pourrait en aucun cas le faire, puisque la comparaison historique peut seulement réduire tels ou tels systèmes philosophiques existants à tels ou tels corps de principes qu'elle leur fait correspondre. Mais il faut encore estimer le degré de parenté et de filiation des principes en question, ce qui ne peut être fait que par le genre de déduction radicale qui incombe à la méthode synthétique. C'est une façon de dire qu'on ne peut pas se contenter de l'histoire, on a besoin en plus du genre de démarche que représente la méthode synthétique. Par rapport à ce que la méthode permet de déduire, les systèmes philosophiques que l'histoire reconstruit jouent alors, en quelque sorte, le rôle de matériaux qui permettent de tester les prédictions de la théorie. Vous voyez ce que Wiemann dit de la méthode synthétique dans ce passage. Cette méthode, à savoir la méthode synthétique, aura à procéder à une déduction radicale dont aucune forme d'histoire ne saurait tenir lieu, quoique seule l'histoire puisse la justifier au sens auquel l'expérience justifie la théorie. Donc vous voyez, ce que l'expérience est à la théorie, l'histoire l'est en quelque sorte à la méthode synthétique. En révélant en effet les liaisons architectoniques et les rapprochements parfois profondément cachés dans les systèmes et entre les systèmes que la déduction prédit, l'histoire lui fournit des expérimentations toutes faites que récuseraient seuls ceux qui, surestimant leur force et ravalant une tradition qu'ils ignorent, tiendraient toutes les philosophies du passé pour un conservatoire de superstitions. Donc c'est encore une autre façon de dire que nous avons un besoin essentiel à la fois de la méthode synthétique et de l'histoire. L'histoire ne serait pas suffisante, mais la méthode synthétique ne le serait pas non plus. Wiemann a consacré un article spécial au problème de la classification des formes fondamentales de la prédication. C'est un article qui s'intitule « Les formes fondamentales de la prédication, un essai de classification ». Et il est paru dans les recherches sur la philosophie et le langage Cahier numéro 4, il s'agit d'une publication du groupe de recherche sur la philosophie et le langage de l'Université des sciences sociales de Grenoble. Et ce cahier donc, a été publié en 1984, et l'article de Villemin donc, figure page 9 à 30, et il s'intitule encore une fois « Les formes fondamentales de la prédication, un essai de classification ». Mais l'exposé le plus complet que l'on trouve chez lui sur cette question est sans doute celui qui est donné dans « What are philosophical systems ?» et que j'ai déjà cité à plusieurs reprises. Le travail de préparation à la classification des systèmes proprement dites est d'une lecture difficile, notamment parce qu'il mobilise des connaissances relativement techniques empruntées à au moins trois domaines différents. C'est, d'après moi, le chapitre de beaucoup le plus difficile du livre. Et la raison de sa difficulté donc, est qu'il mobilise, il fait intervenir des connaissances passablement techniques qui sont empruntées à au moins trois domaines différents. Premièrement, la théorie de la perception, en particulier les contributions que des auteurs comme Helmholtz et Poincaré ont apportées à la résolution du problème de la genèse et des caractéristiques de l'organisation perceptuelle. Donc, il s'agit de choses que Villemin connaît très bien et qu'il expose avec une maîtrise remarquable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui intervient est la révolution logique fréguéenne et ses conséquences, en particulier ses conséquences pour l'analyse de la proposition. Et là, les auteurs auxquels Villemin se réfère sont principalement Frege, Russell et Quine. Et enfin, troisièmement, il y a un aspect qui, un élément qui joue également un rôle très important, un domaine pardon, qui joue également un rôle très important, c'est la linguistique générale. En particulier des auteurs comme Saussure, Meillet, Benveniste, également Ténière, qui est un auteur que Villemin utilise assez souvent, à juste titre, me semble-t-il. Donc, il y a une, au nombre des éléments déterminants, donc il y a la linguistique générale qui joue dans la construction de Villemin un rôle au moins aussi important que la logique. À la différence de certains philosophes analytiques, Villemin n'hésite pas à prendre nettement ses distances par rapport à un type de philosophie du langage inspiré de façon un peu trop exclusive par le point de vue et les méthodes de la logique. Et il n'hésite pas, encore une fois, à recourir de façon assez systématique aux acquis de la linguistique générale. Je vais supposer résolu le problème de la caractérisation de l'organisation perceptuelle, qui ne nous intéresse pas directement dans ce contexte, puisque, comme on l'a vu, il ne contribue en rien à la division qui se produit à un moment donné entre les différents choix philosophiques possibles. Et je vais donc m'intéresser d'un peu plus près au problème de la classification des formes fondamentales de la prédication. Je n'aurai pas la possibilité cette année de pousser très loin cette l'explication de la manière dont Villemin construit sa classification des formes fondamentales de la prédication, mais j'aimerais au moins commencer à vous en donner une idée pendant les deux séances qui nous restent. Après avoir essayé de préciser la nature des relations que la philosophie entretient avec les sciences, il me faut cependant encore, avant de regarder la façon dont Villemin construit sa classification des formes fondamentales de la prédication, il me faut vous en dire encore un peu plus sur le rôle exact que la méthode axiomatique est susceptible de jouer en philosophie. C'est à cette question-là que je voudrais m'intéresser pour le moment. Granger a consacré à ce problème un article assez détaillé et très éclairant qui figure dans le volume d'hommage consacré à Villemin que j'ai déjà cité à plusieurs reprises. Granger dit ceci, « Le problème crucial et l'objet principal de la discussion m'apparaît comme étant celui du sens qu'il faut donner et de la portée qu'il faut reconnaître à une méthode axiomatique appliquée à la philosophie même. » C'est la question précise que je suis en train de poser. Hein, de quel usage est exactement la méthode axiomatique dans la philosophie elle-même? On sait que Gödel avait sur cette question une idée assez simple, qui est que la philosophie devrait pouvoir appliquer la méthode axiomatique à peu près au sens auquel Newton l'a appliquée à la physique, et avec une chance sérieuse de parvenir à des résultats du même genre. Bon, ça peut sembler passablement naïf, mais c'est en tout cas tout à fait explicitement ce que Gödel a expliqué à différentes reprises à Wang. Wang dit ceci à propos de Gödel. Donc c'est Gödel qui parle. La tâche principale, pardon, c'est Wang qui parle, excusez-moi, et il s'agit des idées de Gödel sur cette question. La tâche principale de la philosophie telle qu'il la voyait, donc telle que Gödel la voyait, était premièrement de déterminer ses concepts primitifs et deuxièmement d'analyser ou percevoir ou comprendre ces concepts suffisamment bien pour découvrir les axiomes principaux qui portent sur eux, de façon à, et là c'est la formule de Gödel lui-même, de façon à faire pour la métaphysique autant que Newton a fait pour la physique. Donc oui, il s'agit tout à fait littéralement d'une application de la méthode axiomatique, essayer d'identifier les concepts fondamentaux de la métaphysique et deuxièmement d'arriver à une perception suffisamment claire et précise des dix concepts pour découvrir les axiomes principaux qui portent sur eux. C'est l'objectif qui, d'après Gödel, devrait être celui de la philosophie. À plusieurs occasions, ajoute Wang, il a dit qu'il n'avait pas de solution satisfaisante, même pour le problème 1. C'est-à-dire qu'il a reconnu très honnêtement qu'il n'avait pas été, en ce qui le concerne, il n'avait pas été capable d'aller très loin dans la résolution du problème numéro 1, c'est-à-dire la détermination de ce que pourraient être les concepts primitifs de la métaphysique. Wang cite une réflexion de Gödel dans laquelle Gödel dit que, vous voyez, ce qu'il dit, le commencement de la physique a été l'œuvre de Newton de 1687, qui a besoin uniquement de primitifs très simples, force, masse, loi. Je cherche une théorie semblable pour la philosophie ou la métaphysique. Donc, vous voyez, ce n'est pas une exagération de ma part de dire qu'il rêvait de quelque chose comme une utilisation, comme un emploi tout à fait direct et explicite de la méthode axiomatique en philosophie. Donc, je cherche, dit Gödel, une théorie semblable pour la philosophie ou la métaphysique. Les métaphysiciens croient possible de trouver ce que la réalité objective est. Il n'y a qu'un petit nombre d'entités primitives qui causent l'existence des autres entités. Donc, le problème est véritablement de déterminer, si possible, la nature des entités réellement primitives à partir desquelles on peut espérer réussir à reconstruire la réalité dans son ensemble. On peut remarquer également que, d'après ce que dit Wang, j'ai reproduit encore ce passage, bien que ce que nous savons de son œuvre philosophique, l'œuvre de Gödel, donc, soit intimement lié à la science, particulièrement aux mathématiques, il suggère lui-même que la science ou l'étude de la pensée scientifique, en contraste avec la pensée de tous les jours, a peu de choses à offrir à la philosophie fondamentale. Et là, il y a donc un point de désaccord tout à fait important par rapport à la position que défend de son côté Wiemann. Gödel dit clairement que ce qui est le plus prometteur pour la philosophie, c'est l'analyse de la pensée ordinaire, par opposition à la pensée scientifique. Il n'y a pas énormément de choses, d'après lui, à tirer d'une étude directe de la pensée scientifique. Ça peut sembler effectivement un petit peu surprenant, dans la mesure où son œuvre philosophique est liée au point auquel elle l'est, au degré auquel elle l'est, à la science, en particulier aux mathématiques. Mais il n'empêche que c'est bien l'idée qu'il défend, hein, que une philosophie pour notre temps devrait privilégier l'analyse de la pensée ordinaire par rapport à l'analyse de la pensée scientifique. Et il semble avoir été convaincu donc que l'étude de la pensée scientifique, qui est la chose évidemment qu'ont privilégié des philosophes comme ceux du cercle de Vienne, il semble avoir été convaincu donc que cette étude ne peut pas conduire en philosophie à des résultats aussi intéressants et aussi profonds que celle de la pensée de tous les jours. La science, dit-il explicitement, n'est pas plus profonde et on ne peut pas attendre grand-chose d'elle. Par exemple, elle ne peut pas nous aider à apprendre comment percevoir des concepts. Donc, on ne peut pas compter sur la science pour nous aider à résoudre ce qui, à ses yeux, constitue un problème philosophique fondamental, c'est-à-dire réussir à acquérir une perception et une compréhension plus claires et plus précises et plus complètes des concepts fondamentaux dont nous avons besoin en métaphysique pour essayer de reconstruire la réalité dans son ensemble. Donc ce n'est pas le genre de choses pour lequel la science peut nous rendre des services considérables. Et pour ce genre de tâches, en fait, Gödel pensait qu'il y a beaucoup plus à attendre d'une démarche comme celle de la phénoménologie husserlienne. Il pensait que sur ce point précis, donc, le genre de philosophie qui est peut-être le plus adapté parmi ceux qui sont à la disposition aujourd'hui à la disposition du philosophe, c'est encore la phénoménologie husserlienne qui était la plus prometteuse. Alors, c'est un point sur lequel Villemin, comme vous avez déjà pu le voir, a une conception sensiblement différente, puisque lui, il pense qu'il y a nettement plus à attendre pour la philosophie d'une analyse de la connaissance scientifique que d'une analyse de la connaissance ordinaire. On pourrait dire qu'il s'agit encore d'un de ces choix philosophiques fondamentaux qui doivent être effectués. À quoi faut-il, à laquelle des deux formes de connaissance faut-il accorder la priorité quand on est philosophe? Est-ce à la connaissance ordinaire ou à la connaissance philosophique? Il y a des raisons qui peuvent inciter à choisir l'une ou l'autre, des raisons tout à fait respectables qui peuvent inciter à choisir l'une ou l'autre de ces deux options plutôt que l'autre. Pour ce qui est des relations de la philosophie avec la méthode axiomatique, on peut constater assez rapidement qu'elles sont, aux yeux de Villemin, d'un type nettement plus complexe et indirect que ne le suggère le genre d'analogie qui est utilisé par Gödel. En ce qui concerne Gödel, les choses sont tout à fait claires, puisqu'il suggère que la méthode axiomatique peut et devrait être appliquée tout à fait directement à la philosophie, et utilisée donc dans le travail philosophique lui-même. Villemin considère que la situation est nettement plus compliquée. Si le rôle crucial que joue à ses yeux l'axiomatisation dans le cas des sciences est tout à fait clair, la réponse en ce qui concerne la façon dont les choses se passent pour la philosophie elle-même est, pour des raisons à la fois évidentes et compréhensibles, plus difficile et incertaine. Voyez par exemple ce qu'écrit Granger sur ce point. Dans le domaine de la connaissance scientifique, l'axiomatisation joue assez manifestement le rôle constitutif de détermination de l'objet. Donc là, la méthode axiomatique joue un rôle qui n'est pas seulement essentiel, mais qui est même, comme le dit Granger, constitutif de détermination de l'objet, c'est-à-dire que se trouve par elle explicitée la préparation du phénomène en vue de sa représentation par une image abstraite. Peut-on déceler une fonction comparable dans le cas des philosophies? Peut-on imaginer une utilisation de la méthode axiomatique comparable pour la philosophie? Les énoncés philosophiques s'organisent-ils en système à partir d'une base axiomatique à la manière de ceux de la science? Donc, c'est un peu la question de savoir si les systèmes philosophiques sont ou non susceptibles de revêtir une forme qui les rendrait véritablement comparables aux systèmes scientifiques. J'avais déjà évoqué tout au début cette question, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que la systématicité des systèmes philosophiques soit exactement du même type que la systématicité des systèmes scientifiques. Mais ça pourrait être le cas, évidemment, s'il était possible de faire à la philosophie elle-même une application de la méthode axiomatique qui serait tout à fait comparable à celle qu'on en fait aux sciences. Or, quand Villemin compare le cas des mathématiques à celui de la philosophie, le seul trait décisif qu'il cherche finalement à mettre en évidence, semble être finalement la cohérence. Il dit ceci: « Avant tout, vaut pour la mathématique et la philosophie l'exigence de cohérence. » Et une des questions qu'est amené inévitablement à se poser le lecteur de Villemin est celle de savoir si oui ou non les analogies et les relations entre les mathématiques et la philosophie sont susceptibles d'aller plus loin que cela. Est-ce qu'il faut se contenter de cette idée que le point commun essentiel et peut-être unique entre les mathématiques et la philosophie, c'est qu'il vaut, comme dit Villemin, pour l'une et l'autre, pour la mathématique et la philosophie, la même exigence de cohérence. Si on considère les choses sous cet aspect, c'est-à-dire si on est enclin à penser que c'est effectivement cet élément-là et probablement lui seul qui est important comme élément commun, si on considère les choses de cette façon, donc l'intérêt que présente l'utilisation de la méthode axiomatique est évident. La formulation axiomatique est bien celle à laquelle on doit tendre si l'on veut pouvoir tester une doctrine pour ce qui est de sa non-contradiction. Mais, comme le fait remarquer Granger, même en mathématiques, la fonction d'un système d'axiomes ne se borne évidemment pas à cela. Le système d'axiomes ne sert pas uniquement à, je cite Granger, exposer le squelette d'articulation logique qui doit gouverner toutes les propositions de la théorie. Ce n'est pas à cela que se borne la fonction du système d'axiomes. Celui-ci a également un rôle proprement constitutif au sens dont il a été question plus haut. Granger souligne même qu'il ne dessine le système axiomatique, qu'il ne dessine pas seulement une pure forme d'objet, mais introduit déjà des contenus, que l'on peut soit, comme le fait Kant, rattacher pour ce qui est de leur origine à la sensibilité, soit considérer comme inhérent au fonctionnement d'une pensée symbolique et comme correspondant à ce qu'il propose pour sa part d'appeler des contenus formels. C'est l'expression que Granger utilise pour désigner des contenus de cette sorte. Donc ce sont des contenus qui n'ont pas de lien particulier avec la sensibilité, à la différence de ce qui se passe chez Kant, mais qui peuvent être considérés comme inhérents au fonctionnement d'une pensée symbolique. Il importe peu, dans ce contexte, de décider si les axiomes mathématiques sont synthétiques a priori ou analytiques, et s'ils introduisent des contenus de l'une ou de l'autre des deux espèces, c'est-à-dire des contenus dans un sens plutôt kantien ou des contenus au sens de ce que Granger appelle des contenus formels. Ce n'est pas cet aspect du problème qui est important. Le point important est que les axiomes déterminent des contenus et que la question qui se pose inévitablement est de savoir si des axiomes philosophiques pourraient ou non déterminer eux aussi des contenus spécifiques et s'ils pourraient se contenter par exemple de simples contenus formels ou si les contenus philosophiques ne sont pas d'une nature telle qu'ils risquent fatalement de déborder le cadre d'une axiomatique quelconque. Et donc là, nous nous approchons de la question cruciale, est-ce que les contenus philosophiques ne sont pas par essence tels qu'ils vont à peu près inévitablement déborder tôt ou tard le cadre d'une axiomatique quelconque. C'est bien l'impression que donnent de façon générale la plupart des systèmes philosophiques. Alors, c'est un problème qui, comme le remarque Granger, n'est pas du tout étranger à la pensée de Wiedemann. Il se l'est posé à maintes reprises. Par exemple, dans le texte de 1985 que j'ai déjà cité, où il associe étroitement les mathématiques et la philosophie antique, il écrit ceci: « Les questions touchant la nature des concepts fondamentaux et l'évidence des principes sont l'affaire d'une autre discipline, la philosophie. » Et bien sûr, cette question, celle de la nature des concepts fondamentaux et de l'évidence des principes, est une question qu'on est amené de façon tout à fait naturelle à se poser à propos d'un système axiomatique quelconque, mais est-ce que cette question elle-même peut faire l'objet d'un traitement par la méthode axiomatique? C'est le problème qui va se poser inévitablement. Et de la réponse qu'on lui donne dépend évidemment celle qu'on devra donner à la question des possibilités, de la possibilité d'appliquer la méthode axiomatique à la philosophie elle-même. Comme on a déjà eu l'occasion de le constater, la méthode axiomatique elle-même ne se préoccupe en principe nullement de la nature des concepts qui sont mentionnés dans les axiomes et pas davantage de l'évidence de ceux-ci. Et dans la citation que vous avez sous les yeux, il est dit donc très clairement que cette question, celle de la nature des concepts fondamentaux et de l'évidence des principes, relève précisément de la philosophie, autrement dit, en quelque sorte, ne relève pas de la méthode axiomatique elle-même, mais plutôt une question qu'un philosophe est amené inévitablement à se poser à propos des choses dont il est question et des assertions qui sont formulées dans le contexte d'une utilisation donnée de la méthode axiomatique. On a donc besoin de la philosophie pour faire une chose que justement l'axiomatique ne fait pas, à savoir s'intéresser de près à la nature des concepts et à l'évidence des principes. Et cela rend difficilement, comme je viens de le dire, cela rend difficilement concevable qu'elle puisse elle-même prendre la forme d'une axiomatique au sens indiqué. De plus, même s'il a pu y avoir des systèmes philosophiques qui, comme l'éthique de Spinoza, ont été présentés explicitement sous une forme axiomatique, il n'est pas du tout certain que les prémices qui sont utilisées par un système philosophique quelconque puissent toujours être explicitées dans leur intégralité et mises sous la forme d'une axiomatique proprement dite. Il n'est pas du tout certain qu'un système philosophique puisse toujours être mis sous une forme axiomatique, même si on renonce évidemment à donner à cette axiomatique une allure véritablement formelle, même si on se contente d'une axiomatique matérielle. Il n'y va pas du tout de soi donc il soit possible de donner à un système philosophique quelconque une forme axiomatique. Et Wittmann, sur ce point, se pose, est évidemment conscient des limites de ce que l'on peut espérer obtenir, et il souligne que le cas de la philosophie est bien différent de celui de la science. Vous voyez par exemple ce passage. À l'intérieur des sciences particulières, le pluralisme méthodologique qui est lié à la méthode axiomatique produit des conséquences limitées. À un moment donné, seul un petit nombre de méthodes qui fonctionnent sont mûres et adoptées en pratique par tous les scientifiques en même temps que leur système axiomatique correspondant. Au contraire, les prémices, donc si vous voulez, on a affaire à chaque fois qu'à un nombre relativement limité d'axiomatiques qui fonctionnent de façon satisfaisante, qui ne pose pas de problème particulier. Au contraire, les prémices que manipule la philosophie sont si générales, si nombreuses et si complexes qu'elles sont rebelles à toute expression formelle particulière. Donc oui, il semble qu'il faille abandonner dès le départ l'idée de mettre une philosophie quelconque sous une forme véritablement formelle, de lui donner véritablement la forme d'une axiomatique formelle. Les prémices que manipule la philosophie sont si générales, si nombreuses et si complexes qu'elles sont rebelles à toute expression formelle particulière et même défient peut-être toute expression historique particulière, si complète soit-elle. Ce qui semble en tout cas peu contestable est que si la réduction axiomatique et la présentation axiomatique peuvent présenter un intérêt réel pour la philosophie, il doit s'agir d'axiomatique matérielle et non d'axiomatique formelle. C'est ce que je viens de dire. Semble résulter inévitablement au moins cette conclusion que s'il y a l'espoir de réussir à axiomatiser, un espoir de réussir à axiomatiser les philosophies, ou en tout cas certaines d'entre elles, ce n'est pas d'axiomatique formelle qui peut être question, mais seulement d'axiomatique matérielle. Wittmann donne sur ce point une explication très éclairante dans sa réponse à Granger, faisant allusion à ce qu'il a dit à propos de ce qui sépare l'attitude de Descartes et de Kant, de celle de Leibniz. Il dit ceci, j'ai reproduit un assez long passage, « Nous venons d'associer les mathématiques et la philosophie, et toutes les deux, à leur tour, avec l'analyse et la synthèse. La synthèse n'est rien d'autre que la méthode axiomatique. Rappelons, pour le bénéfice de ceux que ces mots renversent, que Descartes et Spinoza ont construit leur métaphysique de façon synthétique, et que la critique de la raison pratique commence par des définitions, des théorèmes et des problèmes. » Donc ici, Wittmann suggère qu'il y a bel et bien eu des philosophies qui ont recouru de façon explicite à la méthode synthétique, autrement dit à la méthode axiomatique, comprise de façon appropriée. Dans les mathématiques, trois types de développement axiomatique sont distingués. Cette distinction est importante. Donc, trois types de développement axiomatique sont distingués. L'axiomatique matérielle, là, Wittmann donne comme exemple la géométrie d'Euclide, les Principia de Newton, donc il s'agit d'axiomatique matérielle, l'axiomatique formelle, la syllogistique d'Aristote, le livre 5 des éléments d'Euclide, et donc le troisième type de développement axiomatique, c'est l'axiomatique formalisée, qui est opposée ici à l'axiomatique formelle. Wittmann donne comme exemple la syllogistique stoïcienne, avec un point d'interrogation, et la géométrie de Hilbert. Un quatrième type, qui n'utilise pas de symboles conventionnellement définis et se restreint au langage ordinaire, les a précédés. Un bon nombre de textes aristotéliciens appartiennent à ce type, donc à ce quatrième type, par exemple l'exposition et la réfutation des arguments de Zénon d'Élée dans la physique. Il en va de même pour l'argument dominateur rapporté par Épictète. Donc, stricto sensu, il ne s'agit ni d'axiomatique formelle, ni d'axiomatique formalisée, et pas non plus exactement d'axiomatique matérielle. C'est la raison pour laquelle Wittmann ressent le besoin d'introduire un quatrième type de développement axiomatique. Les questions que Gilles Gaston Granger soulève à propos de ces questions sont fondamentales. Le statut qui doit être attribué à la philosophie dépend de la réponse qui leur est donnée. La validité des systèmes dans lesquels la philosophie est exprimée a-t-elle à voir, au moins partiellement, avec la vérité ? L'histoire des mathématiques classiques présente un développement qui passe inexorablement du premier au deuxième et même au troisième type d'axiomatique. Donc, vous voyez, dans l'histoire des mathématiques, il y a eu un développement qui a mené du premier au deuxième et même assez largement au troisième type d'axiomatique. Donc, de la, l'axiomatique matérielle à l'axiomatique formelle et de là, au moins dans certains cas, au troisième type d'axiomatique, c'est-à-dire à l'axiomatique formalisée. Donc, l'histoire des mathématiques classiques présente un développement qui passe inexorablement du premier au deuxième et même au troisième type d'axiomatique. C'est en ce sens qu'on dit que les mathématiciens ne savent pas sur quoi ils parlent, une affirmation déjà sous-entendue par le discours que tient Socrate dans le Théétète. Vimain, faisons ici la déclaration fameuse de Bertrand Russell, à partir du moment où les mathématiques ont été axiomatisées, et axiomatisées de façon formelle et même formalisées, donc on est autorisé à dire Russell, qu'en mathématiques, on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Alors, donc c'est en ce sens qu'on dit, une fois qu'on est passé au troisième type, hein, qu'on dit que les mathématiciens ne savent pas sur quoi ils parlent, une affirmation, notre vie humaine, déjà sous-entendue par le discours que tient Socrate dans le Théétète. Les intuitionnistes, toutefois, se sont opposés et s'opposeront toujours à ce développement inexorable. En fait, peu de mathématiciens ont été aussi opposés à ce développement qui présente une apparence plus ou moins irrésistible, autant que les intuitionnistes. Il est difficile d'imaginer cependant que la philosophie puisse, sans cesser d'être ce qu'elle est censée être, devenir non seulement formelle, mais même formalisée, au sens où les mathématiques ont eu tendance à le devenir, et en arriver à un stade où on pourrait être tenté de dire d'elle aussi qu'elle ne sait pas de quel genre de choses elle parle au juste. Il y a eu des tentatives qui ont été faites pour parvenir non seulement à une philosophie axiomatisée au sens matériel du terme, mais également pour franchir deux stades de plus, c'est-à-dire le stade de l'axiomatique formelle et même celui de l'axiomatique formalisée. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été avec des réussites pour le moins limitées. Comme le souligne Villemin, la philosophie ne peut, pour de bonnes raisons, faire le silence sur les questions ontologiques et utiliser la méthode axiomatique avec l'idée de ne plus avoir à se préoccuper de ce genre de questions. Il s'agit précisément d'un désavantage déterminant de la méthode axiomatique, ne plus avoir à se préoccuper particulièrement des questions d'ontologie, mais c'est justement le genre de choses que la philosophie ne peut en aucun cas se permettre, puisque l'ontologie lui importe de façon essentielle. Ce qui est certain est que la question de savoir dans quelle mesure la philosophie peut recourir effectivement à la méthode axiomatique et de quel type d'axiomatique il peut s'agir dans son cas a effectivement un lien direct avec celle du rapport qu'elle est censée entretenir avec la vérité, et plus précisément avec celle de savoir si c'est plutôt d'une notion de vérité cohérence ou d'une notion de vérité correspondance que l'on peut parler dans son cas. C'est un point qui est tout à fait crucial. Il est impossible de séparer ces deux questions. Qu'est-ce que la méthode axiomatique a exactement à voir avec la philosophie et quel genre de notion de vérité peut-on appliquer à la philosophie? Est-ce que c'est plutôt d'une notion de vérité cohérence? Dans ce cas-là, évidemment, on comprendrait très bien pourquoi l'usage de la méthode axiomatique est si important, ou bien est-ce que ça n'est pas plutôt d'une notion de vérité correspondance? Et dans ce cas-là, évidemment, la nécessité de recourir à la méthode axiomatique semble s'imposer de façon beaucoup moins évidente. Granger note que Villemin assigne à l'axiomatique formelle deux caractéristiques par lesquelles on a l'habitude de la distinguer de l'axiomatique matérielle. Elle procède, dit-il, par définition implicite, et elle utilise la méthode métamathématique dans laquelle les démonstrations vont des choses au signe. Voici ce qu'il dit à ce propos. C'est Villemin qui dit cela. La première caractéristique, c'est-à-dire l'utilisation de la formulation de définition implicite, la première caractérisation peut aller sans la seconde. C'est toujours le cas quand la philosophie elle-même procède d'une façon axiomatique, et c'est la raison pour laquelle, en dépit de l'occurrence de définition implicite en philosophie, seule l'axiomatique matérielle a été dite être pertinente pour la philosophie. Donc, comme vous voyez, Villemin distingue dans le cas de la philosophie deux choses qui ont une importance très inégale, hein, c'est-à-dire la méthode axiomatique se caractérise d'une part par l'usage de définitions implicites et d'autre part par l'usage de ce qu'il appelle la méthode métamathématique, la caractéristique de la méthode métamathématique étant à peu de choses près, si vous voulez, de remplacer la considération des choses par la considération des signes. Or, dans le passage que vous avez sous les yeux, Villemin reconnaît tout à fait clairement que la première chose, c'est-à-dire l'utilisation des définitions implicites, est probablement une chose très importante pour la philosophie. En revanche, la deuxième ne l'est pas, et enfin ne semble pas l'être. Et si la deuxième ne l'est pas, ça signifie que, comme Villemin le dit, seule l'axiomatique matérielle a été dite être pertinente, peut être dite pertinente, être pertinente pour la philosophie. Autrement dit, en résumé, on peut dire que l'axiomatique philosophique recourt aux méthodes, aux définitions implicites, mais pas à la méthode axiomatique. Ces démonstrations, quand elles en comportent, continuent à faire référence aux choses et non aux signes. Et c'est ce que Villemin veut dire quand il suggère qu'au fond, s'il est vrai qu'elle recourt aux définitions implicites, elle n'a pas nécessairement à recourir à l'usage de la méthode métamathématique. Alors je terminerai en vous citant un passage de Granger qui porte sur cet aspect du problème et qui, je vous l'avoue dès à présent, me laisse complètement perplexe, mais de ma perplexité, je vous parlerai la prochaine fois. Donc aujourd'hui, je me contenterai de vous lire ce passage. À propos donc de ce que Villemin dit, en particulier dans le passage que je viens de citer, Granger dit « On peut dès lors se demander si une telle axiomatisation, donc l'axiomatisation, le genre d'axiomatisation qu'utilisent les philosophies, on peut dès lors se demander si une telle axiomatisation, ayant perdu la vertu qui lui venait de son possible déploiement sur le seul plan des symboles, continue véritablement de pouvoir exercer la fonction qui était dans son premier usage essentiel. Il me semble, pour ma part, qu'un système de définition implicite ne peut mériter vraiment le nom d'axiomatique que dans la mesure où, s'il véhicule des contenus, ceux-ci se trouvent convenablement représentés dans les rapports des signes et où les déductions métamathématiques, au sens cité, qui s'en suivent, sont susceptibles d'interprétations valides. Donc, l'interrogation que formule Granger est celle de savoir si il est possible de parler si on peut parler légitimement d'un système de définition de l'usage d'un système de définition implicite dans des cas où on est obligé de constater, on est obligé de se demander en même temps si ce système de définition implicite véhicule réellement des contenus qui se trouvent être convenablement représentés dans les rapports de signes. Autrement dit, est-ce qu'on peut séparer, de la façon dont Villemin pense que c'est possible, l'usage de la méthode de la formulation de définition implicite de la méthode métamathématique. Du reste, ajoute-t-il, Jules Villemin ne manque pas d'avoir recours à une telle axiomatisation formelle. Donc, Villemin lui-même, après avoir remarqué qu'on peut et peut-être doit, dans le cas de la philosophie, séparer ces deux choses, la méthode de définition implicite et la méthode mathématique, Villemin se trouve obligé à certains moments de recourir à une axiomatisation proprement formelle, c'est-à-dire une axiomatisation qui utilise bel et bien la méthode métamathématique en plus de la méthode de définition implicite. Il est obligé d'utiliser une axiomatisation formelle lorsqu'il veut restaurer et mettre en forme, dit Granger, un argument comme celui du dominateur. Mais il s'agit alors d'un fragment de discours envisagé dans sa démarche purement logique, dont il faut dégager la tactique. Son aspect proprement philosophique ne se manifeste postérieurement que dans sa fonction stratégique, dans son insertion au sein d'un système de la contingence ou de la nécessité. » Fin de citation. Eh bien, ce passage et d'autres de Granger me soulèvent de sérieux problèmes, notamment quand il, peut-être plus encore, quand il s'attaque à la question de savoir quelle signification exacte il est possible, du point de vue de Villemin, de donner à la notion de vérité en philosophie. Mais encore une fois, donc je vais laisser les choses là où elles en sont pour aujourd'hui, et je vous parlerai de cela la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention.